Le journal Adia Chipoukou.
Les titres de ce journal, situation médicale toujours fragile dans le camp de Rouampara où vivent les éléments de la 4e brigade intégrée. D'autres nouvelles épidémies plus contagieuses refont surface. Des explications dans ce journal avec Jean-Pierre Marigot, responsable de Médecins sans frontières à Bounia. Un nouveau pas dans l'enquête sur l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Pascal Kabungulu à Bukavu. Les enquêteurs ont pu rassembler des éléments de preuve sur les auteurs et les commanditaires de ce meurtre, mais il manque les moyens pour auditionner les personnes présumées. Les taxis se font rares à Mbujimayi. Les habitants sont obligés de parcourir de longues distances à pied. C'est l'une des conséquences des tracasseries routières que les chauffeurs taxis de cette ville déplorent. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal à Bounia, en Ituri. La situation médicale demeure fragile dans le camp de Rouampara où vivent les éléments de la 4e brigade intégrée. Le cas de choléra semble maîtrisé, mais d'autres nouvelles épidémies plus contagieuses refont surface. Médecins sans frontières citent notamment la diarrhée sanglante, la chigulose et un cas de peste qui reste à confirmer. Le dispensaire de la brigade a accueilli 101 cas de diarrhée sanglante les 48 dernières heures. Les détails avec Jean-Pierre Marigot, responsable de Médecins sans frontières à Bounia. Il a été joint au téléphone par Jean Kassami.
La situation générale reste quand même très, très, très fragile et nous inquiète tout le temps. Globalement, la situation sur l'aspect choléra pour l'équipe médicale de MSF reste stable. Par contre, hier après-midi, le ministère de la Santé, à travers son laboratoire à Bounia, suspecte une femme atteinte de la peste. Cela dit, l'équipe d'MSF garde son diagnostic en réserve et a demandé de faire un contre-test ce matin et qui est en cours. Je n'ai pas encore le résultat de ce test. Les villageois autour de Rouampara et de Bounia, s'ils rencontrent des gens du camp, il est préférable effectivement qu'ils ne prennent pas contact, qu'ils ne les touchent pas, qu'ils ne les saluent pas, pas la poignée de main habituelle.
Sachez également que la MONUC doit en principe distribuer des vivres à Rouampara dès cet après-midi. Revenons dans la capitale. L'Union européenne s'engage à apporter son appui dans la mise en place d'une police intégrée. C'est dans ce cadre qu'un accord de partenariat entre la RDC et l'Union européenne a été signé ce matin au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Ce nouveau partenariat va permettre à l'unité de la police de l'Union européenne présente en RDC d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil à la section de la police intégrée chargée d'assurer la sécurité des institutions congolaises. Le ministre des Affaires étrangères, Ramazani Baya, nous parle des intérêts de cet accord. Il est au micro de Kélin Kouté.
Il y a la formation des policiers, il y a la sécurisation des institutions étatiques. Et nous commençons par Kinshasa d'abord, où se concentre l'essentiel de nos institutions. Il n'est pas impossible qu'on envisage l'extension en province, mais on n'en est pas encore là. Donc la mission essentielle, c'est la sécurisation des institutions étatiques à Kinshasa. Il est évident que sans la sécurité, les élections seront difficiles à organiser. Sans la sécurité dans les sens le plus large, y compris celle des institutions. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. L'intérêt de cette police qui aide à la sécurité, à la sécurisation des institutions me semble évident.
Processus électoral à l'Équateur, à quelques jours du lancement des opérations d'enrôlement des électeurs, il se pose des problèmes d'accessibilité dans certains centres d'inscription dans le district du Sud Ubangi. Ce constat a été fait hier mercredi à Gemena par le commissaire de ce district. Jean-Robert Vundawe vient d'effectuer une tournée de sensibilisation de la population à l'enrôlement à travers les différents territoires de sa juridiction. On l'écoute au micro de Askin Zigbia Tayoro.
Notre pays a organisé des élections il y a très longtemps et des élections en bonne et due forme n'ont jamais été organisées. La population ne comprenait pas d'abord ce que c'est enrôlement et enregistrement des électeurs. On leur a expliqué cela et c'est comme s'ils sortaient d'un sommeil, ils ont compris la nécessité de se faire enrôler avant toute l'opération de l'élection. Le problème au niveau de la population n'existait pas, mais c'est au niveau même des travaux publics qu'il y a le problème. Donc les routes, la plupart de nos axes routiers sont impraticables. Il y a des digues qui sont inondées et il y a des axes où on ne pourra faire que par hors-bord ou par hélico. Donc ce sont là les grands problèmes que nous avons ici pour le déploiement de kits d'enregistrement.
Direction Sud Kivu avec le suivi de l'enquête sur l'assassinat de Pascal Kabungulu, secrétaire exécutif de l'ONG héritier de la justice. Les enquêteurs ont pu rassembler des éléments de preuve sur les auteurs et les commanditaires de ce meurtre. Mais la commission d'enquête constituée le 6 août manque de moyens matériels et juridiques pour rassembler des indices et auditionner les personnes soupçonnées d'être impliquées. Premier bilan de cette enquête avec Sophie Badera.
9 personnes, dont 2 officiers présumés commanditaires du meurtre, ont été arrêtées par l'auditorat militaire. Tous sont des militaires. Ils ont été auditionnés. L'auditeur militaire supérieur détient des preuves matérielles. Lieutenant-colonel Madialiwa Mulindwa.
Pour l'instant, nous avons l'arme du crime, le corpus delictu. Nous avons une douille de la munition qui avait abattu ce grand défenseur des droits de l'homme. Je crois que ça évolue positivement.
L'auditeur militaire supérieur déplore également le manque de qualification des membres de la commission d'enquête. Il dénonce un blocage politique. Cette inquiétude est partagée par l'ONG héritée de la justice qui affirme que la commission est infiltrée. Gérard Kwigwassa, animateur à héritier de la justice.
Ces officiers, ce sont des officiers qui ont proféré des menaces de mort à Kabungulu en présence de l'auditeur militaire en 2003. Et le parti dont ils sont d'obédience est encore influent au sud Kivu. Nous pensons que ces personnes sont celles qui ont infiltré la commission pour que la commission ne donne pas la vérité.
Le président de la commission d'enquête déplore également le manque de moyens matériels, ne serait-ce qu'une voiture pour se déplacer rapidement. Signalons que le gouvernorat de la province s'était engagé le 6 août à couvrir tous les frais relatifs à la mission d'enquête, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Bukavu, Sophie Badera, Radio Okapi.
Dans le volet humanitaire, le HCR a bouclé hier ses activités à Kisenge Manganèse, localité située à 800 km à l'ouest de Lubumbashi, nous sommes dans le Katanga. Selon le chef de bureau du Haut Commissariat des réfugiés Katanga, Abdelahi Houd Helba, environ 50 000 réfugiés angolais vivant à Kisenge ont été rapatriés dans leur pays. Le dernier groupe est parti de Kisenge en mai dernier. Les Angolais restés à Kisenge sont considérés comme des citoyens ayant intégré la communauté. Actuellement, la logistique constituée des véhicules et matériels du bureau sont convoyés vers le Bas-Congo. Toutefois, le chef de bureau du HCR Lubumbashi a précisé que le bureau de Lubumbashi reste ouvert. Abdelahi Houd Helba au micro de Colin Djumamou.
On a arrêté les activités au niveau de Kisenge parce que les camps ont été fermés. Nous avons fait des efforts en vue de la réhabilitation du milieu qui a été en partie détruit par des réfugiés. Nous avons fait des projets de régénération du milieu. Nous avons aidé les communautés locales, nous avons aidé l'administration locale par le don de générateurs pour les hôpitaux, de matériel médical, de fournitures scolaires pour les écoles, de voitures et de camions pour l'administration et pour les partenaires locaux. Le bureau de Lubumbashi reste ouvert. Maintenant, la grande opération qui se profile à l'horizon serait cette fois-ci de rapatrier les réfugiés congolais qui sont en Tanzanie et surtout en Zambie pour ce qui est de la province du Katanga. Et nous continuons à travailler tant que le gouvernement nous le demande et tant qu'il y a des réfugiés à rapatrier d'un côté ou d'un autre.
Ouvrons à présent le chapitre socio-économique. D'abord à Mbujimayi, les taxis se font de plus en plus rares. Les files d'attente se multiplient dans des arrêts de bus. La population se plaint de parcourir de longues distances à pied. Les chauffeurs taxis expliquent quant à eux cette rareté des véhicules par les tracasseries dont ils sont victimes de la part des policiers routiers. Des précisions avec Niki Mputu.
Il faut 45 minutes d'attente à l'arrêt au minimum pour avoir un moyen de transport à Mbujimayi depuis 3 jours. Les rares taxis que l'on peut trouver sont soit pleins, soit déjà pris en location. Et pourtant, c'est une question qui était déjà résolue depuis plusieurs jours, vu le nombre considérable des taxis sur la ville. Mais à ce jour, nombreux transporteurs préfèrent parquer leurs engins pour cause les tracasseries entretenues par les agents de la police de roulage largués sur la route.
La seule difficulté est qu'on ne tient pas compte des documents. Si vous n'en avez pas, on vous arrête et vous payez. Si vous en avez comme moi, on invente un motif pour vous amener auprès de leur chef. En tout cas, il n'y a pas moyen avec la police des roulages. Nous dépensons.
À Beni, par contre, c'est la grogne des importateurs des produits pétroliers et des commissionnaires en douane. À la base de ce mécontentement, l'octroi par l'OFID à Beni de l'exclusivité de dédouanement de produits pétroliers à la CEP Congo au détriment d'autres agences en douane. Le point avec Étienne Mouhindo.
À l'île de Beni, les activités tournent au ralenti. Les vendeurs et revendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, ont fermé leurs kiosques. Ils déclarent qu'ils ne savent plus à quel prix vendre leurs marchandises. Le prix de l'essence est passé de 500 francs congolais à 1000, reconnaît le secrétaire de Kadhafi de Beni. Pour le président de la SEC Beni, M. Kamash, depuis 4 jours, une vingtaine de véhicules transportant du carburant sont bloqués à la douane de Kassindi. Le propriétaire de cette marchandise refuse de la dédouaner tant que le monopole du dédouanement sera réservé à la SEC Congo. L'importation des produits pétroliers représente 60% du trafic dans le secteur de Beni-Boutembo, déclare le président des commissionnaires à douanes. Accorder l'exclusivité du dédouanement de ces produits à un seul commissionnaire, c'est mettre les autres au chômage et créer ainsi la sécurité sociale. Monsieur Alphonse Bounzé rassurait en outre que la CEP Congo ne dispose d'aucune installation de stockage ni entreposage de carburant dans le secteur de Beni-Boutembo. Pour mettre fin à cette crise, la SEC et les agences douanes demandent l'arbitrage de la Direction générale de l'OFIDA et du gouverneur des provinces du Nord Kivu. Etienne Mwindo, Beni, Radio Okapi.
Et puis dans le Bas-Congo, trois écoles se retrouvent dans la rue à quelques jours de la rentrée scolaire. Il s'agit de l'Institut officiel Bogoto et deux autres écoles privées, La Chandelle et Don Petit Petit. Les portes de ces écoles sont scellées depuis une semaine sur ordre de la Société nationale d'électricité. Après avoir cohabité 7 ans dans le même immeuble de 4 étages, la SNEL affirme avoir racheté ce bâtiment et demande aux responsables de ces trois écoles d'aller ailleurs. La mairie de Matadi s'en est saisie et promet de boucler l'affaire ce jeudi. De Matadi, correspondance de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Le maire de Matadi tient à rencontrer ce jeudi après-midi les responsables de la Société nationale d'électricité et ceux des écoles Boboto, La Chandelle et Don Petit Petit. La réunion, selon Jean-Marc Nzeidi, vise à convaincre les responsables des trois écoles à libérer effectivement le bâtiment au profit de la SNEL. Et d'ailleurs, une lettre brandie par la direction SNEL Bas-Congo prouve que les trois écoles avaient sollicité en 2004 un sursis d'une année à la SNEL. Toujours d'après le numéro 1 de Matadi, un bâtiment serait déjà trouvé pour l'Institut Boboto, la seule école publique. Quant aux deux écoles privées, elles doivent, je cite, se débrouiller. Mais la solution du maire de Matadi ne semble pas rassurer les responsables de l'Institut officiel Boboto, car selon son directeur des études, le nouveau bâtiment accordé dans la commune de Mvouzi est un vieil hôtel inachevé et qui exige beaucoup de travaux. Même réaction du côté du comité des parents de l'Institut Boboto. Son président Floribert Ngongo pense déjà inscrire ses enfants ailleurs, car selon lui, il sera difficile à l'Institut Boboto de démarrer la nouvelle année dans ses locaux, pareil à des toilettes publiques, sans toiture ni charpente. Pendant que les trois écoles cherchent encore à se localiser, la rentrée scolaire, elle, reste fixée pour ce lundi 5 septembre prochain. Matadi, Jean-Claude Toumba Kamanga, Radio Okapi.
Kasaï Oriental de nouveau, les femmes des médias de Mbujimayi déterminées à soutenir le processus électoral en cours dans le pays. Réunies pendant 2 jours en séminaire atelier, ces femmes se sont résolues de sensibiliser toutes les femmes pour créer un leadership féminin responsable dans la province. Elles s'engagent également à soutenir les candidatures féminines en vue d'obtenir une forte représentativité dans les institutions publiques. Isabelle Tsangana, présidente de l'UCOFEM, est au micro de Nike Mputu.
Nous nous sommes engagés à sensibiliser totalement davantage la base, la femme au processus électoral, les sensibiliser beaucoup plus à connaître ce qui doit être fait dans notre pays avant les élections, après les élections. La femme de médias doit éveiller l'attention de l'autre femme qui ne doit pas être l'ennemi de la femme elle-même, mais plutôt demander à cette femme-là de s'associer à elle pour que nous arrivions à présenter aussi des femmes aux élections. Des femmes n'ont pas été réellement impliquées dans ce processus. Cette fois-ci, la période que nous sommes en train de parcourir est très délicate, qu'il faudrait beaucoup plus aller à la base avec ces informations et surtout auprès de la femme. Cette femme qui donne la vie, elle est appelée également à véhiculer ses messages auprès de ses enfants et même de la population dans laquelle elle est en train de vivre. Il faudrait franchement que la femme qui est dans le théâtre, les informations bien sûr, les émissions également, donne facilement cette information pour que ce message passe.
L'actualité ce jeudi, c'est aussi la 23e session consultative des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale. Cette rencontre se tient en ce moment à Brazzaville. À l'ordre du jour, la réinsertion des ex-combattants et le processus démocratique dans la sous-région. Les ministres qui prennent part à cette rencontre examinent les conclusions des travaux des experts tenus quelques heures plus tôt. Correspondance de Brazzaville avec Arsène Sévérin.
La réinsertion des ex-combattants dans les pays ayant connu la guerre reste un problème par manque d'argent. Les pays de l'Afrique centrale déplorent en effet l'insuffisance des moyens pour la mise en œuvre de cette opération. Les ministres examineront aussi la question de la mise en œuvre de la brigade d'attente qui sera spécialisée dans les opérations d'intervention et de maintien d'ordre en cas de conflit armé dans l'un des pays membres. La question récurrente des rébellions armées qui sévissent aux frontières des pays de la CAC, notamment le Rwanda et la RDC, sera également évoquée. La réunion qui s'ouvre ce jeudi permettra enfin de faire le point sur les préparatifs des manœuvres militaires de Bahr el-Ghazal qui auront lieu en Tchad en novembre prochain. Cette rencontre a été précédée par les travaux des experts. Ceux-ci se sont félicités de la fin du processus électoral en Centrafrique et au Burundi, des progrès dans le processus démocratique en RDC et des efforts du Congo pour la réinsertion des ex-miliciens. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
C'est donc par là que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur Radio Okapi.